terre. Et puis, qu'est-ce que tout le monde a à me poser des questions, comme si je n'avais pas assez de soucis à résoudre, comme ça, je m'énerve un peu, c'est pour faire semblant. Qu'on soit bien clair, car au fond de mon trou, ça m'arrange. J'ai arrêté de me demander pourquoi les choses sont importantes pour les gens ou les choses, elles le sont, c'est tout. Chacun vit avec ce qui le touche au cœur, et ça peut sembler incompréhensible aux autres, mais ce n'est pas à eux de décider de ce qui est important ou non. Personne n'est personne d'autre, chacun est chacun. Chacun, tout en semblant semblable aux autres, n'est d'abord et toujours que lui-même. Personne n'est dans le cœur des autres ou dans leur tête, et tant mieux d'ailleurs, surtout pour la tête. C'est un petit extrait d'un livre qui a beaucoup de succès et qui est paru à la rentrée dernière et qui a été auréolé d'un grand succès. C'est le moment pour nous, à l'heure bleue, de revenir sur l'œuvre, malgré son jeune âge, de Mohamed Bungar Sarr, pour la plus secrète mémoire des hommes. Mais nous allons commencer en musique et ça sera Youssou N'Dour.
Thank you.
Nous venons d'entendre Youssou N'Dour qui chante à la fois en wolof, en français, en anglais. Vous, dans quelle langue avez-vous été éduqué, Mohamed?
Alors, j'ai été éduqué en sérère. C'est ma langue maternelle ou ma langue première. C'est une langue qui est parlée par à peu près 30% de la population au Sénégal, par une ethnie. L'ethnie et la langue, c'est le même mot pour les désigner. Les sérères. Donc, ma mère me parlait sérère, mon père aussi me parlait sérère, mes oncles et mes tantes me parlaient sérère. Donc, c'est la langue que j'ai.
Et votre grand-mère tété. Aussi?
Ma grand-mère me parlait sérère parce que, en fait, c'est la seule langue qu'elle parlait. Elle ne parlait aucune autre langue.
Elle a été importante, manifestement, dans votre éducation, votre grand-mère, puisque vous lui dédicacez un de vos livres antérieurs à
mon
celui...
Premier.
Le premier livre.
Le premier, il est dans la dédicace. Et je lui dédie parce qu'elle est décédée quelques semaines avant la publication de ce roman, de mon premier roman. C'est un roman que j'aurais aimé, comme je le lui ai écrit sur la dédicace, que j'aurais aimé lui lire, lui traduire en sérère. Ce n'est pas simplement, c'est une dette affective, bien sûr, mais c'est surtout une dette littéraire, en tout cas une dette poétique, puisque de plus en plus, je suis convaincu qu'elle a joué un rôle important dans mon devenir ou mon désir de devenir écrivain, même si je n'en étais pas conscient à l'époque.
Pourquoi ?
Parce que tout simplement, mais c'est assez classique aussi, je crois, c'est elle qui m'a raconté mes premiers contes. Donc les premières histoires que j'ai entendues, les premières ouvertures de mon imaginaire ont été opérées par elle, par des contes en sérère. Oui.
Le sérère, vous continuez à le parler à Paris où vous habitez désormais ?
Lorsque j'appelle mes parents et ma mère en particulier, oui. Quand j'appelle mes frères aussi, ou quand je rencontre un compatriote qui parle sérère, il nous arrive de parler un tout petit peu en sérère. Avec mon coéditeur, le coéditeur de mon dernier roman, Félouine Sarr, il nous arrive de parler en sérère parce que c'est une langue que nous avons en partage.
Une langue, ça s'accompagne d'un imaginaire, d'une civilisation.
Oui.
Et manifestement, cette civilisation sérère, elle est aussi empreinte d'une grande vision, d'une hyper-réalité ou d'une trans-réalité ou de quelque chose que nous ne voyons pas forcément.
Oui, étant donné que la vision du monde passe aussi par la langue, on trouve dans le sérère tous les éléments de la cosmogonie, et de la cosmologie sérère. Et c'est une langue qui est à la fois extrêmement concrète, mais derrière cet aspect concret, il y a toujours un aspect spirituel extrêmement fort, tout simplement parce que pour atteindre au spirituel ou pour atteindre au métaphysique, il faut en passer par des éléments concrets. C'est là tout le sens de ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé parfois de façon péjorative, le paganisme ou l'animisme. Mais ça veut simplement dire avoir une conscience très forte de son environnement, avoir une conscience forte des éléments de son réel immédiat, de ce qui nous entoure.
C'est-à-dire la nature, les animaux,
la nature, les
animaux,
les plantes, la lumière, le sol. Ce n'est pas non plus pour rien que les sérères sont une ethnie majoritairement d'agriculteurs. D'ailleurs, le mot paganisme renvoie à ça. Le pagus, c'est ça en latin, bien sûr. Ça renvoie à la culture du sol en particulier. Donc, des mots très concrets, mais qui sont aussi, non pas abstraits, mais aussi spirituels, on va dire. Donc le sérère, c'est aussi tout cela.
Au centre de votre dernier livre, il y a un personnage principal qui est une sorte de voyant, qui ressemble beaucoup à vous, comme un frère. Et il est question aussi d'un grand écrivain, on en parlera tout à l'heure, qui a été reconnu par le monde français, puis qui a été ensuite rejeté dans les oubliettes à tout jamais, jusqu'au moment où vous avez décidé de le ressusciter, et qu'on appelait le Rimbaud nègre. L'écriture serait-elle une forme de voyance héritée de votre culture sérère, Mohamed ?
Non, je ne le dirais pas ainsi. Ou alors, c'est une voyance dont la direction n'est pas le futur, mais le passé, en ce qui me concerne en tout cas. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'écrivains aussi, dont les prophéties sont toujours tourner vers leurs origines, non pas parce que le passé les fascine ou qu'ils sont obsédés par c'est pas dans un mouvement, comment dire, un peu facilement réactionnaire, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, ou d'une nostalgie qui serait un peu triste, mais c'est parce qu'on a toujours l'intuition que c'est dans ce passé-là que réside le secret de ce que nous sommes, ou le secret de notre désir profond, en l'occurrence le désir d'écrire ou de raconter des histoires. Donc je ne crois pas. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que je n'ai jamais vraiment cru aux écrivains visionnaires, mais c'est-à-dire dans le sens où ils pourraient prédire l'avenir, prophétiser des choses. Je crois que ce que les écrivains voient le mieux, c'est surtout le passé. Mais peut-être que si on voit bien le passé, on voit aussi très bien l'avenir, évidemment. Mais tout ça se fait dans un travail du présent. Donc on navigue tout le temps, les écrivains. Et je pense que j'en suis un, en tout cas. Je suis un écrivain, je pense, qui navigue, justement, entre les strates de temps très, 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 très différentes. Voilà. Un navigateur du temps, on peut le dire ainsi.
On peut dire aussi que vous êtes un navigateur de la sensation et aussi de l'introspection. Vos livres ne sont pas autobiographiques et pourtant ils racontent une histoire assez universelle à partir de votre propre territoire géographique, le Sénégal. Il y a déjà eu 3 autres livres avant la consécration par le prix Goncourt de votre œuvre, malgré vos 31 ans. Et on a l'impression que la langue française est arrivée très jeune dans votre corpus sensoriel.
Oui.
Pas comme une obligation, ni comme une domination.
Non, elle m'est d'abord arrivée dans l'environnement familial aussi. C'est-à-dire que c'est une langue que je pratiquais déjà, au moins par la sensation de l'entendre dans ma famille. On parlait sérère, bien sûr, mais à côté du sérère, et avant même le Wolof, qui est la langue la plus parlée, il y a d'abord eu le français que j'entendais souvent quand mon père parlait au téléphone ou qu'il parlait avec des collègues. Donc c'est une langue que j'ai connue avant de l'avoir apprise d'une certaine façon. Et puis petit à petit, je l'ai apprise, mais elle est arrivée dans un mouvement en accompagnant d'autres langues. Il y avait déjà le sérère qui était là. Elle est arrivée. Et puis ensuite, le Wolof est arrivé et tout cela a formé, en effet, tout un corpus qui est encore très présent, c'est-à-dire plurilingue dès la prime enfance. Et c'est peut-être pour cela que je ne l'ai pas immédiatement senti et que je ne la sens toujours pas d'ailleurs comme une langue de domination. C'est-à-dire que tout en étant conscient de son histoire, en étant conscient du fait qu'elle est arrivée au Sénégal par une histoire de domination, dans mon environnement personnel, elle est d'abord arrivée en compagnie d'autres langues.
En même temps, vous êtes un fils de, je ne l'ai pas. Vous êtes un fils de l'indépendance, donc vous êtes arrivé bien après l'indépendance.
Bien après l'indépendance, et je crois que c'est peut-être ce qui définit mon rapport moins complexé, au sens quasiment psychanalytique du terme de complexe, à la langue française. Je ne la divinise pas, mais je ne l'accable pas non plus. C'est une langue que j'utilise pour travailler, pour parler, pour correspondre, pour être en relation. Et c'est peut-être parce que je la banalise, entre guillemets, que je peux être dans un rapport plus juste à elle.
Navigateur plurilingue, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que dans chacune des langues que vous connaissez, Mohamed, il y a des mots pour désigner des réalités différentes. Comment définissez-vous l'écriture? Est-ce que l'écriture, c'est d'essayer d'être le plus précis pour décrire quelque chose que l'on voudrait faire comprendre, communiquer, puisque des sentiments peuvent être différents selon la langue
bien sûr
qu'on utilise?
Bien sûr. Et c'est pour cela que le mot même de précision est tout à fait relatif dans une langue. Je crois qu'on peut arriver à une précision parce qu'il y a un mot, un seul, qui désigne un sentiment ou une sensation particulière et qu'il n'y en a pas d'autre. Mais on peut aussi être précis parce qu'on multiplie les mots autour d'une sensation. Et ça sert simplement à dire toutes les nuances d'une sensation ou d'une réalité. Et c'est aussi cela, la précision. Cela peut arriver par la multiplicité, comme cela peut arriver par l'unicité finalement, une correspondance nécessaire, obligatoire entre un mot et la chose. Il se trouve que dans les langues que je pratique, je peux trouver pour une sensation particulière, je peux recourir à l'une ou l'autre de ces propriétés-là des langues. Et c'est finalement ça, la richesse d'être plurilingue. Et même si j'écris en français, ce plurilinguisme est toujours présent. Glissant le disait, il l'a résumé d'une formule, j'écris en présence de toutes les autres langues du monde, d'une certaine façon, c'est ce qu'il voulait dire. Et que la langue qui nous sert, la langue techniquement qu'on utilise pour écrire, n'est jamais seule dans le travail de l'écriture. Elle est toujours hantée, parasitée, soutenue, aidée, mélangée aux autres langues du monde, ou aux autres langues du moins qu'on parle.
Je vous propose d'écouter la voix de Roland Barthes sur la puissance de l'acte d'écrire, un acte de jouissance et de plaisir. C'est une archive INA du 17 février 1975. C'est une archive de Radioscopie de Jacques Chancel.
Oh, j'accorde une puissance énorme à l'acte d'écrire, mais comme toujours, l'acte d'écrire peut prendre différents masques, différentes valeurs. Il y a des moments où on écrit parce qu'on pense participer à un combat. Ça a été le cas, disons, dans les débuts de ma carrière d'écrivain ou d'écrivant. Et puis, peu à peu, se dégage finalement la vérité, une vérité plus nue, si je puis dire. C'est qu'on écrit parce que, au fond, on aime cela et parce que ça fait plaisir. C'est donc finalement pour un motif de jouissance qu'on écrit, ce qui ne veut pas dire que dans cet acte de jouissance, on ne rencontre pas d'autres motivations et disons qu'on ne rencontre pas d'autres débats et qu'on ne rencontre pas tout simplement les autres.
Mais l'acte d'écrire est-il le prolongement de l'acte de penser ?
Or, non seulement le prolongement, mais peut-être même il n'en est pas séparable. Peut-être que la question que vous posez est très, très importante, ça serait assez compliqué d'y répondre, mais d'abord nous savons bien qu'en fait on pense toujours avec du langage, qu'on pense en parlant, qu'on parle en pensant, qu'il n'y a pas de pensée préalable au langage qui est en nous, finalement. Et en plus, dans certains cas, comme le mien, penser est immédiatement lié à une forme que je, si je puis dire, je visualise déjà comme une forme écrite, voyez-vous. C'est, au fond, j'ai tendance, et c'est peut-être un peu ambigu, mais j'ai tendance à penser par phrase, disons, et non pas à penser par pensée. Et c'est en cela que peut-être ma situation est un peu difficile à repérer. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur. Je ne suis pas non plus peut-être tout à fait un écrivain comme on l'entendait il y a 50 ans. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement.
Nous venons d'entendre la voix de Roland Barthes. Il parle d'écrivain. Je sais que c'est un auteur important pour vous, Mohamed Sarr. Et je sais aussi que pour vous, l'acte d'écrire, c'est un acte qui est peut-être volontaire, mais qui en même temps lâche les amarres. Et d'ailleurs, nous, lectrices et lecteurs, on s'en rend compte. On chavire avec vous dans cette pluritextualité.
Oui, c'est
vous
toute l'ambiguïté.
Vous pensez en écrivant ou vous pensez avant d'écrire, vous ?
En réalité, je découvre ce que je pense. Je pense penser avant d'écrire. Mais ce qui se passe toujours,
dans c'est la que, tête, donc,
dans la
avant,
tête.
Avant l'ordi.
Oui, je pense penser. Je pense penser avant d'écrire, mais ce qui se passe toujours dans l'écriture, c'est que on découvre que c'est parce qu'on écrit qu'on pense. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme cela que ça se passe. Je découvre ce que je pense en l'écrivant. J'allais dire après l'avoir écrit, mais c'est vraiment en l'écrivant. Et c'est vraiment cette concomitance absolue entre l'écriture et la pensée qui donne à l'écriture son pouvoir. Je ne pense pas du tout que la pensée, en tout cas dans le roman et en ce qui me concerne, préexiste à l'écriture. C'est l'écriture qui lui donne une forme. Et c'est tout le sens d'une écriture qu'on associe à une élucidation, comme je le fais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à une pensée qui est assez confus au départ, informe, et que l'écriture vient clarifier, vient réordonner. Ça ne veut pas dire le structurer rigidement, parce que ça prend évidemment des formes qui sont celles d'un chavirement ou d'une jouissance, comme dirait Barthes, mais ça apparaît toujours dans l'écriture, pendant l'écriture. Donc pour moi, de façon très évidente, l'écriture préexiste, précède la pensée, ou, pour le dire plus clairement, l'écriture clarifie la pensée.
Elle met de l'ordre.
Elle met de l'ordre, et surtout, c'est et comme elle met de l'ordre, on la découvre, cette pensée, puisqu'elle est ordonnée, on la découvre pendant l'écriture. C'est pour ça que je ne sais pas faire de plan, je ne sais pas penser mes romans avant de les avoir écrits. J'ai toujours besoin de cet écart-là que crée l'écriture, qui est précisément l'écart autant de la découverte de l'élucidation que de la jouissance. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est très curieux, parce que Barthes semble faire de plaisir et jouissance la même chose, alors qu'il a écrit tout un texte, qui est le plaisir du texte, où tout son travail consiste à les différencier, où il tente de dire ce qui relève d'une écriture du plaisir et ce qui relève d'une écriture de la jouissance. Et ce qui les différencierait, pour le dire très rapidement, ce serait vraiment l'écriture de plaisir serait une écriture du confort, ce qui n'exclut pas le plaisir, c'est de retrouver des sensations connues, habituelles, alors que l'écriture de jouissance est un peu plus monstrueuse, crée l'écart et nous livre à l'inconnu. Et c'est un tout petit peu ce que je cherche pour moi d'abord et aussi à produire pour les lecteurs.
Vous avez plusieurs registres d'écriture. Vous avez déjà publié 3 autres livres avant celui-ci. Le premier s'intitulait Terre Sainte. Il avait reçu le prix Kuruma. Il avait été remarqué à l'intérieur de la galaxie littéraire. Et quand on le reprend aujourd'hui, on se dit qu'il y a peut-être un premier registre d'écriture chez vous, c'est l'écriture par nécessité. Car sans trop en dire pour les lectrices et les lecteurs, ça raconte l'histoire de djihadistes qui arrivent dans un village et qui font se livrer à l'établissement de leurs propres lois au mépris des libertés individuelles. Oui. Et là, il y a efficacité, pureté, densité de votre écriture.
Oui, parce qu'en effet, elle est ordonnée par la nécessité et la nécessité de l'actualité la plus immédiate. Au moment où j'écrivais ce livre, le nord du Mali venait d'être envahi. Et c'est un territoire qui est encore en proie à différents désordres liés évidemment au djihadisme, mais liés aussi à beaucoup d'autres pouvoirs. C'est très embrouillé finalement. Mais c'est cette situation-là en 2012 qui est le déclencheur finalement, qui me soumet au désir d'écrire très fortement. Et c'est vrai que j'ai écrit mon premier roman sur cette situation-là assez rapidement, dans un état de tension et de flux nerveux continuel, mais qui était aussi un état d'écriture assez intéressant, parce que j'étais dans l'état où j'hésitais, je ne savais pas quoi écrire, vers quelle direction aller. Eh bien, la réalité était là et m'a donné l'occasion de me lancer sans trop me poser de questions, parce qu'il y avait la nécessité de réfléchir à ce qui se passait alors par le roman.
Hélas, l'écriture a accompagné quelque chose qui ne faisait que commencer et qui perdure. L'actualité nous en donne des preuves chaque jour. Je vous propose d'écouter un reportage d'Euronews. C'était le 24 janvier dernier.
Le Burkina Faso, théâtre d'un coup d'état militaire qui a chassé du pouvoir le président Roch Marc Christian Kabore. Ce dernier était contesté depuis plusieurs mois pour son incapacité à faire reculer la menace djihadiste. Des soldats s'étaient mutinés dimanche dans plusieurs casernes, initiant ce coup de force. Un communiqué a été lu à la télévision par des hommes armés.
1. La constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 heure, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 5. un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre.
Le flou régnait ce lundi sur le sort du président Kaboré. Certaines sources affirment qu'il serait aux mains des soldats. D'autres indiquent qu'il a été exfiltré.
Votre livre, Mohamed, date de 2015. Cette archive date de début 2022. On s'aperçoit que la situation devient de plus en plus explosive, tant sur le plan géographique, politique, diplomatique et religieuse. Vous êtes un écrivain. Vous avez entendu les paroles qu'utilisaient les auteurs du coup d'État militaire au Burkina Faso. À l'intérieur de votre livre, justement, les protagonistes qui arrivent dans ce village ne parlent pas. Ils n'utilisent pas la parole comme quelque chose qui peut transmettre des idées. Ils donnent des ordres.
Oui, la parole là n'est plus du tout dans la communication ou dans la relation, ou alors c'est dans un sens très précis, c'est-à-dire très restreint de la communication, qui est simplement, on ne vous demande pas votre avis, rien de démocratique, on vous informe, on vous ordonne, voilà ce qui s'est passé, ou voilà ce qui va se passer selon notre bon vouloir. Et c'est toujours une manière de dire à ceux qui écoutent, en fait, vous n'avez même pas le droit de répondre. Et moi, une situation de parole où toute réponse est impossible ou biaisée à l'avance n'est pas une situation de parole libre. Évidemment, moi, j'ai une pensée, bien sûr, pour tout le Burkina Faso, pour tous mes amis burkinabés. J'ignore ce qui va se passer dans les prochaines heures, mais je dois dire tout de même que je suis assez inquiet par la multiplication ces derniers mois des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Alors certains de mes amis, d'ailleurs, parmi disent que c'est nécessaire, qu'il faut les faire bouger les choses comme cela. Mais moi, j'ai toujours eu très, très peur de l'illégitimité des gouvernements qui, même sous une apparence ou une sorte de légitimité du moment s'impose, parce que j'ai toujours eu dans l'idée que ceux qui entraient ou commençaient dans l'illégitimité se termineraient toujours dans l'illégitimité ou dans la violence, en tout cas dans une sorte de souffrance pour une partie de la population. Mais en effet, ce qui est toujours en jeu dans ces histoires-là, c'est le langage et le sens qu'on donne aux mots. Est-ce qu'on leur donne une véritable chair, une vie, ou est-ce qu'on les utilise simplement comme des outils pour ordonner ou pour contraindre ou pour simplement informer en perdant leur suc et leur char.
Vous êtes originaire puisque vous vivez en France en ce moment, mais vous vivez aussi de temps en temps au Sénégal, votre terre d'origine. Le Sénégal a la chance d'être un pays démocratique, avec un président élu démocratiquement, où ce genre de problème, je l'espère, n'arrive pas depuis longtemps. Il se trouve qu'avant les élections législatives qui se tenaient lieu à Dakar en 21, vous avez participé à un ouvrage collectif intitulé « Politisez-vous ». Vous y avez signé un article, Mohamed Sarr, où vous appeliez à une citoyenneté pleine et entière. Et vous disiez aux populations les plus jeunes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses au Sénégal, qu'il fallait justement aller voter et que c'était une arme, une démonstration de la possibilité d'être un citoyen.
C'est une possibilité parmi d'autres. C'est-à-dire que la citoyenneté, pour moi, se jouait vraiment dans plusieurs lieux, à plusieurs endroits. C'est qu'elle part de l'intime jusque maintenant, la sphère publique, jusqu'au vote. Donc, tout en encourageant, évidemment, ces jeunes populations à prendre conscience de cette arme dont ils disposent, qui est un bulletin, je leur disais également qu'il ne suffisait pas de voter pour être dispensé de la citoyenneté et que ça ne se résumait pas à cela. Et que si le seul vote était l'alpha et l'oméga d'une réflexion politique, Eh bien, comme dirait Cyrano, c'est un peu court, jeune homme. Il faut faire autre chose, il faut s'engager autrement, trouver d'autres sphères où on opère, voilà, cette citoyenneté, où on la met en acte, où on la met à l'épreuve. C'est ce que je tentais de dire dans ce texte-là, oui, qui date maintenant de quelques années, mais c'est un discours que j'assume encore aujourd'hui et que je répète à tous les jeunes du Sénégal.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Mohamed Bungar Sarr, El Arado, Victor Jara.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Évidemment, le problème littéraire est très grand. Il y a un mystère là-dedans. Par exemple, quand Stevenson dit que les personnages de l'art, disons d'un roman ou d'un drame, ne sont que de séries de mots, on sent tout de suite que cela n'est pas vrai.
Et je crains que si.
Non.
Je crois que si.
Non, par exemple, imaginons un roman quelconque. Prenons, je ne sais pas, un roman de Dostoïevski. Eh bien, Dostoïevski, il ne décrit pas tous les moments de ses héros. Par exemple, ces héros dînent, puis ils se revoient le lendemain. Mais si le livre est réussi, je crois que c'est le cas pour Dostoïevski, disons, ou pour certains livres de Dostoïevski, on a l'impression qu'entre les deux scènes qu'on a vues, il y a eu aussi d'autres qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que que les héros sont allés chez eux, ils sont dormis, ils ont rêvé à quelque chose. Si on n'a pas cette impression-là, alors le livre n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a bien des choses que l'auteur ne nous raconte pas, que l'auteur ne connaît pas, mais qui doivent exister.
Naturellement.
C'est-à-dire que si deux personnages ne se revoient qu'au bout de 20 ans, il faut sentir qu'ils ont eu des expériences, qu'ils sont vieillis, qu'ils sont un peu changés. Parce que sinon, le livre n'opère pas sur le lecteur, non? Je crois que c'est Coleridge qui parlait de « a willing suspension of disbelief ». C'est-à-dire que dans l'art, il n'y a ni croyance ni incrédulité. Que le lecteur suspend volontairement son scepticisme ou son manque de croyance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il collabore avec l'auteur. C'est-à-dire une personne qui voit une tragédie sait très bien que cela se passe sur une scène, que ce sont des acteurs, que ce n'est pas Macbeth qui l'a devant lui. Ça, il le sait. Mais en même temps, il entre dans le jeu. Il tâche de l'oublier, ou plutôt de suspendre, comme dit Coleridge, son incrédulité.
Nous venons d'entendre la voix de Jorge Luis Borges. C'est une archive de France Culture, datée du 29 mars 1965. Et si nous avons choisi de vous faire écouter Borges, c'est pour plusieurs raisons, Mohamed. D'abord parce que il est un des personnages de votre nouveau livre. D'autre part parce que la technique d'écriture que vous utilisez dans ce roman, qui a été couronné donc par le prix Goncourt, s'apparente, je crois, beaucoup à celle de Jorge Luis Borges. Et d'autre part, parce que je crois que dans votre écriture, il y a véritablement, comme chez Borges, la place du lecteur et de la lectrice, et qu'il y a une collaboration entre vous et moi, si j'ose dire, entre nous, les lecteurs, et vous, l'auteur. Il y a de la place aussi pour nous.
Oui, bien sûr. C'est toujours magnifique d'écouter Borges, et il a utilisé le mot qui est au cœur de toute son esthétique, je crois, et de toute sa morale finalement, qui est le mot de jeu. Je pense que on doit lire comme on joue, on doit aussi écrire comme on joue, et le jeu, le meilleur, est toujours une collaboration. L'idée qu'un texte ait 1000 sens possibles, 1000 interprétations possibles, n'a de sens que si on admet que ces 1000 sens et ces 1000 interprétations lui sont aussi données par 1000 lecteurs et lectrices et qui l'interprètent ainsi. La présence du lecteur sert à ça, à valider les sens que l'auteur n'a pas mis dans son texte. Un lecteur sert à ça, pas simplement à lire une histoire dans laquelle l'auteur lui tiendrait la main du début à la fin, mais l'auteur lâche sa main. Et dans ce sens-là, à cette condition seule, ce lecteur ou cette lectrice peut aller dans n'importe quelle direction, trouver n'importe quel sens, exhumer des hypothèses, voir dans les interstices des épisodes du récit et en tirer quelque chose. Ça, c'est une idée qui me semble absolument fondamentale, qui évite au lecteur autant qu'à l'écrivain la paresse et la nécessité simplement de toujours rester en alerte, pas au sens d'une alerte un peu crispée et nerveuse, mais d'une alerte qui est celle de l'enfant qui joue. Et ça me semble absolument nécessaire pour qu'un texte ait un sens véritable.
C'est pour ça que votre livre, qui obtient un très vif succès, pas seulement parce qu'il a eu le prix Goncourt, ça l'a lancé, mais c'est aussi parce que ça correspond peut-être à un état de la littérature. Votre livre, il est comme une boîte de Pandore. Chacun peut le lire et en trouver des sens différents. Et je défie quiconque d'avoir lu votre livre et de penser la même chose que son ami, son compagnon, son voisin, etc., etc. Vous utilisez, pour nous perdre, comme dans un jeu d'enfant, justement, différents registres d'écriture, et pour reprendre un peu des mots savants à la Roland Barthes qu'on entendait tout à l'heure, il y a des graphèmes là-dedans, c'est-à-dire il y a du récit continu, il y a de l'autobiographie, il y a du retour en arrière, il y a des voyages, il y a des écrivains, il y a des mises en abîme de l'écriture, et tout ça dans un seul et même livre.
Oui, mais c'est peut-être que c'est peut-être pas un chaos, le mot est peut-être trop fort.
C'est un jeu.
Mais c'est un jeu où on peut d'une allée à une autre du labyrinthe se trouver dans un univers complètement différent, y compris dans la langue même qui est utilisée, parce que tout ça part aussi d'un certain usage de la langue. Donc il faut accepter de jouer, et il n'y a pas du tout de perversité de ma part, c'est que ce n'est pas du tout une envie de balancer des lecteurs comme ça dans un texte en leur disant « débrouillez-vous ». C'est que je suis moi-même aussi là-dedans. C'est pour ça qu'il y a ces faux jeux de miroir, ces mises en abîme, ces récits qui semblent...
C'est porté par Roberto Bolaño, hein, les détectives sauvages.
C'est porté par Bolaño, et dans tous les textes de Bolaño, on sent que Bolaño n'est pas en train simplement de s'amuser.
Non, il ne sait plus très bien où il en est, par moment.
Ce n'est plus un démiurge qui abuserait de ses pouvoirs. Il est lui-même dans le jeu, et parfois lui-même est un peu perdu. Mais il me semble que c'est la condition d'un jeu où les règles sont partagées par tout le monde et où finalement l'auteur n'est pas le demi-dieu tout puissant, mais il est lui-même un joueur à côté d'autres joueurs. Disons que c'est lui qui siffle le début de la partie et ensuite la partie commence et on ne voit plus dans les directions dans lesquelles les lecteurs s'en vont dans ce jeu de cache-cache dans un grand labyrinthe. Voilà.
Il n'y a pas de fin de partie dans ce livre, Mohamed Sarr. Il y a plutôt des pérégrinations, des transgressions, des subversions, des portraits de femmes extrêmement puissantes et sexuellement très désirables. La sexualité est omniprésente. Il y a des espèces de déambulation de l'âme, mais aussi du corps. Et il y a aussi, étrangement, à la fois un grand amour de la littérature et la recherche éperdue donc d'un écrivain qui a réellement existé, qui s'appelait Yambo Walagem et qui a eu le prix Renaudot et qui a été très connu, très célébré, puis ensuite complètement oublié. Et il y a la critique aussi d'un certain milieu littéraire. Je voudrais vous faire écouter la voix d'un écrivain qui est pas tout à fait aussi jeune que vous, parce que vous êtes très jeune, mais qui est jeune et qui lui aussi considère que l'écriture est une sorte de prise de conscience. Il s'agit de Sami Tchak. Nous allons l'écouter parler de ses critiques vis-à-vis des écrivains africains et de la question de la langue. C'était en 2011, l'écrivain Sami Tchak.
Je ne m'exclus pas de mes propres critiques. Je pars d'une certaine comparaison avec les littératures latino-américaines qui me fascinent. Et je me dis qu'il y a encore beaucoup à exploiter de ce continent sur le plan littéraire. Parce que les littératures latino-américaines, dont beaucoup d'auteurs me fascinent, me semblent d'une telle complexité, même au cœur des plus grands malheurs. Et il me semble que ça, c'est un travail qui reste encore à faire, que ce continent reste une mine pour les écrivains. On n'a pas fini de l'exploiter. Même si c'est une formidable arme, un outil que nous partageons, il est en même temps notre limite, parce que tous les auteurs que je cite qui incarnent leur nation, la terre d'un peuple, je pense quand même que leur travail a eu cet impact parce que leur langue est aussi la langue de la terre ou du peuple dont ils... Je ne crois pas, moi, je me trompe peut-être, que Dostoevsky, renonçant au russe pour écrire en anglais, aurait été celui que nous connaissons. Et je me rappelle aussi Solzhenitsyn, qui ne voulait pas perdre son russe pour acquérir un anglais parfait.
Mais parce qu'est-ce que vous allez faire alors, Samy?
Oui, moi, je suis plus ou moins condamné dans la mesure où, je ne sais écrire qu'en français, puisque c'est la langue dans laquelle j'ai appris à écrire. Je peux me mettre à bricoler une écriture dans d'autres langues ou me mettre à écrire pour mon plaisir dans ma langue maternelle, mais je suis résolument un écrivain en langue française, c'est-à-dire quelqu'un qui a avec le français un rapport relativement ombilical, mais qui l'a en même temps comme ses limites.
Alors, nous venons d'entendre la voix de Samy Tchak, c'était au micro de Paula Jacques, grand écrivain, aujourd'hui un peu trop méconnu,
oui.
Mais qui fait partie d'une nouvelle génération que vous incarnez ô combien, Mohamed. C'est-à-dire une génération qui est fière d'avoir pris l'écriture pour pouvoir dire ses propres vérités, fière et revendiquant le français comme langue d'appartenance, en tout cas d'écriture, et en même temps fière de pouvoir dire le sentiment de révolte. Et tout ça avec beaucoup d'humour.
Oui, 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 bon, j'aime beaucoup Samy.
Il y a de nouvelles écritures qui sont en train de naître, dont vous faites partie. Cette impression, moi. Et vous ?
Alors, évidemment, là, je serais bien en peine d'en dire quoi que ce soit, parce qu'évidemment, je crois qu'on...
Vous êtes devenu écrivain ?
En tout cas, moi, je ne le sais pas. Ça, je ne sais pas exactement.
C'est une occupation, c'est une vocation, c'est une manière de vivre ?
C'est une occupation, évidemment, mais au sens une occupation qu'on choisit, une occupation... nécessaire, pas une contrainte, une vocation peut-être, mais c'est un mot dont je me méfie. Et je crois qu'on, de façon très paradoxale, c'est vraiment l'image du serpent qui se mord la queue, c'est que j'écris pour savoir aussi pourquoi j'écris. Et dans cette configuration-là, il est très difficile de déterminer le début ou la raison ou l'origine. On est condamné à simplement la poursuivre. Je crois que, pour en revenir à Samy, on verra d'ici quelques années, il faut peut-être du temps pour voir ce qui est en train de se passer à ce moment, s'il y a des écritures nouvelles, en effet, qui émergent et qui disent quelque chose, non seulement d'un état de la langue ou d'un rapport à la langue, mais aussi d'un rapport à l'histoire, d'un rapport aussi
qui n'est plus celui de la domination coloniale, qui est autre part,
parce que
et autre chose.
Je crois qu'on... en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'après avoir lu les auteurs de la négritude, par exemple, après avoir lu les auteurs des premiers grands combats anticoloniaux, il faut passer à autre chose, il faut trouver autre chose, ou déplacer en tout cas le combat vers d'autres enjeux. Ça ne veut pas dire que ces combats-là sont tout à fait dépassés. On voit encore régulièrement surgir dans l'actualité des questions qui étaient celles que combattaient dans leurs livres, dans leur prise de position, les auteurs de la négritude, par exemple. Mais c'est simplement pouvoir y répondre d'autres lieux, parce que il y a des lieux qui ont déjà été occupés, desquels on a déjà parlé. Et revenir à ces lieux-là ne fait pas avancer la chose, comme on dit. Il faut donc se déplacer, et se déplacer esthétiquement aussi, se déplacer par une forme, se déplacer par une réflexion sur ce qu'on est en train de faire comme écrivain. Et cette conscience-là, c'est peut-être celle que, j'ai en partage avec un certain nombre d'écrivains africains, ou d'ailleurs de mon temps. Mais ça, on mesurera dans quelques années ce qui s'est passé. Peut-être qu'il ne se sera rien passé, et ce sera alors à la postérité de le dire. Voilà.
Vous avez la tête qui tourne ? Le succès vous a tourné la tête ?
Non, je suis surtout un peu fatigué. Je ne pense pas que le succès m'ait tourné la tête. Je demeure dans ma bêtise profonde, et c'est bien parfois. Notre propre bêtise nous sauve parfois, je pense, de bien des tentations. Mais je crois que là aussi, il faudra un peu de temps pour mesurer la conséquence la plus profonde de ce prix-là sur moi, sur ma vie, sur mon écriture. J'espère en tout cas que ça ne changera rien à l'idée que je me fais de l'exigence de l'écriture, de ce que ça me demande. J'espère que ça ne facilitera rien, j'espère que ça ne me poussera pas à des compromissions, à de la facilité. Tout faire, sauf la médiocrité. Voilà. Et quand je dis médiocrité, c'est vraiment au sens où on se laisserait aller à des aisances. Voilà.
Ben merci beaucoup, Mohamed Bougarsar. Ce livre s'intitule « La plus secrète mémoire des hommes ». Il est publié aux éditions Philippe Ray. Et je rappelle aussi, mais ça, la notoriété vous est arrivée comme un boomerang, mais tant mieux, parce que ça a permis d'attirer l'attention sur votre avant-dernier livre, qui est une pure merveille, et qui s'intitule « Les plus purs des hommes », et qui a trait à l'homosexualité et à sa difficile existence dans certains pays. Merci infiniment, Mohamed.
Merci beaucoup.
Passe ton pied, ta tête, ta nuque, tout le monde, tout le monde, tout le monde. À l'époque, ils voulaient pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style, un blanc, bas, un boubou, on fait tout, appelle-nous Foubou. Je fous les seuls que tout bouge et secoue, je mets le fire dans ton igloo. Je frappe un coup de jab comme un nunchaku, check si tu connais la ref. Mon amboka, le monde est fou, t'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas, Kigali jusqu'à Goma. Décibel à dose létale, yeah, boum et boum et les baffes.
Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers, ok.
Slasher, s'égayer.
Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer. Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers. Mets du sel dans ta vie, tant mieux, bébé. J'mets du pili-pili. J'fais danser les jeunes et les vieux, comme le staff Bendabilili. Chez nous, y'a pas de tube de l'été. Non, toute l'année, c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. J'vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois, c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du rein jusqu'à la rouzizi. Viens me coller un billet sur le front. Paraît que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons, j'fais boum et boum. Le caisson.
Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers,
ok. Slasher, s'égayer.
Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer. Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers.
Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers,
ok. Slasher, s'égayer.
Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer. Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers. Infrabasse, les boomers vibrent, fait péter. Allumer les briques, le bal masqué venait fêter. J'construis ma vie, mon œuvre, j'suis dans le BTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse répéter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le style est capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez de têter. Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roucoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y'a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule sans son frein.
Avec Boomer de Gaël Faye que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Julien Michel qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci encore Mohamed Bougarsar. Je rappelle que votre livre, Prix Goncourt 2021, s'intitule « La mémoire la plus secrète des hommes » et que ce livre est publié aux éditions Philippe Ray. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Mougin et Marie-Clément, et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal, rendez-vous avec l'ami Mishka.